Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture planète du Ciboulot, coproduite par Radiographite, Graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Sommaire aujourd'hui, la deuxième émission d'une série de deux consacrée aux classiques, à des œuvres classiques considérées comme des classiques ou alors signées par des réalisateurs qui sont reconnus comme des metteurs en scène importants. Alors, on va démarrer par des films d'aventure hein, avec Le Défilé de la Mort, Le Défilé de la Mort de John Farrow. Alors, pour parler de John Farrow, on contactera notre ami Emmanuel Legagne, qui est un gros fan de John Farrow et qui est très content de voir John Farrow remis au goût du jour. On parlera également de Meurtre à Calcutta, qui est un autre film de John Farrow, du Port des Passions de Anthony Mann. Alors ça, c'est trois titres parus chez Elephant Film. On ira ensuite chez Rimini pour parler du Rosebud d'Otto Preminger et des Imposteurs de Nicolas Meyer. Ça, c'est chez Rimini, donc je l'ai déjà dit, je crois. Et on finira chez Carlotta Film avec deux incontournables du cinéma japonais, Conte Cruel du Bushido, un film de 63 de Tadashi Imai, et Les Mouchoirs jaunes du bonheur de Yoji Yamada. Ça, c'est donc chez Carlotta Film. Et l'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Lucie Mautier, Kevin Boissezon, Thierry Lopez, Victor Lopez et Jean-Pierre Basseur pour leur aide sur cette série d'émissions consacrées aux classiques du cinématographe. Pour causer classique du cinématographe, je suis accompagné de mes chroniqueurs infatigables. Je veux bien sûr parler de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Thomas Roland, dit le loup-garou picard, créateur de À l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut. Bonjour Thomas.
Bonjour Damien, bonjour GG et bonjour à toutes.
Nous allons tout de suite entrer en contact avec Emmanuel Legagne. Alors Emmanuel Legagne, vous le connaissez peut-être parce qu'il apparaît souvent dans les bonus des films édités par nos amis d'Artus Film, mais aussi parce qu'il est... Forcément, vous le connaissez parce qu'il est rédacteur en chef de Prime Cut. Emmanuel, je sais que toi, tu es vraiment un fervent défenseur de John Farrow. Et donc, on a décidé de te passer la parole pour que tu nous parles du Défilé de la Mort.
Alors oui, j'aime beaucoup hein, John Farrow, hein, qui est moi je dirais que c'est un cinéaste très, très méconnu finalement, hein, même auprès des cinéphiles. Il a sans doute signé... parmi les meilleurs des très grands films noirs hein, comme La Grande Horloge et puis des westerns qui sont formidables hein, comme Hondo ou Vaquero. Voilà, enfin, et je pense que s'il n'est pas reconnu à sa juste valeur, c'est parce que ce cinéaste a signé des films, on va dire, plus mineurs dans les années 30, parce qu'il faut savoir qu'il a commencé en 37 et qu'il a terminé dans les années 60. Alors Un film comme Le Défilé de la Mort appartient en fait à un sous-genre hein, très en vogue dans les années 40, c'est le film de guerre de propagande qui était censé remonter le moral des Américains en pleine Deuxième Guerre mondiale. Voilà. D'ailleurs, des grands noms comme Hitchcock avec Correspondant 17 ou Fritz Lang avec les Bourreaux ne meurent jamais, ils ont réalisé aussi ce type de film, d'ailleurs comme énormément de cinéastes américains de l'époque. Voilà. Et d'ailleurs, Pharaon en signera trois autres, mais je pense que le meilleur, c'est le Défilé de la Mort. Voilà, la Russie, il se situe en Chine, comme l'indique le titre original China. Hein. Donc en 1941, pendant le conflit qui oppose la Chine et le Japon, deux Américains, hein, David Jones et Johnny Sparrow, vivent de trafic d'essence en s'alliant avec les Japonais. Alors ils y voient cyniquement certainement un moyen de gagner leur vie. Suite à un bombardement, Sparrow recueille un bébé dont la mère vient de périr. Alors Jones est le baroudeur, machiste et raciste, hein, il veut s'en débarrasser jusqu'au jour où il rencontre Caroline Grant, une institutrice qui tente de faire passer clandestinement de jeunes filles chinoises pour qu'elles puissent poursuivre leurs études. Alors bon, sans surprise, hein, tandis que Sparrow va se prendre d'affection pour l'enfant, Jones va progressivement changer aussi d'attitude. Alors voilà, là on est vraiment dans un scénario qui suit donc un programme précis de réhabilitation d'un personnage hein, qui va donc de prendre conscience de la situation jusqu'à un épilogue qui est à la fois étonnant et convenu d'ailleurs hein, parce que ça finit quelque part mal. Alors, pas besoin d'être un expert en politique pour un peu s'amuser de la situation en regard de l'histoire. Hein. Les Japonais sont montrés alors sur leur pire facette, hein, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais les Chinois, en revanche, sont honnêtes et travailleurs, c'est des braves gens qui subissent l'assaut des alliés des nazis. Alors l'idéologie communiste, là, est totalement évincée au profit d'une lecture qui privilégie l'union face à l'ennemi commun. Alors ça, c'est un peu la petite aparté, hein, parce que l'intérêt du film se trouve quand même ailleurs, hein, dans les rapports humains qu'entretiennent les personnages principaux, hein, où se mêlent l'amitié et l'amour, hein, qui rappellent certaines œuvres de Howard Hawks, comme le Seul les anges ont des ailes. L'amitié qui lie Jones et Sparrow est par ailleurs assez équivoque. Hein. Je tends d'ailleurs un trouble quant à l'instinct maternel de Sparrow, une situation curieuse pour une production américaine des années 40, s'inscrivant dans un genre plus viriliste. Hein. Les allusions, alors que c'est vrai, un peu homosexuelles, sont assez explicites, qu'elles soient conscientes ou non, à une époque puritaine. Alors l'arrivée de l'institutrice va non seulement perturber leurs habitudes, mais aussi opérer un changement de comportement sur Jones, hein, qui va passant du baroudeur, qui on ne l'a fait pas, au héros américain, prêt à donner sa vie pour une bonne cause. Alors derrière, moi, un film d'aventure que je trouve quand même assez brillant, assez enlevé, hein, aux péripéties nombreuses, Défilé de la Mort passionne par son regard espiègle et ambigu sur ce trio amoureux pris dans l'enfer de la guerre. Alors Alan Ladd, assez impassible, se montre comme d'habitude un monolithique, hein, malgré l'évolution de son personnage. Alors en revanche, vraiment, hein, Loretta Young et puis surtout William Bendix, acteur que je ne connais pas vraiment, mais que j'ai déjà vu dans plein de films, hein, compose des personnages très attachants. Alors c'est une petite production, hein, tournée quand même avec un budget réduit. Le Défilé de la Mort, c'est vraiment l'excellente série B, nerveuse et efficace, qui se distingue du tout venant par les qualités d'écriture, d'une histoire un peu conservatrice, hein, et surtout par la mise en scène ingénieuse de Pharaoh, certainement là. Pour moi, c'est vraiment l'un des grands formalistes hollywoodiens des années 40-50. Hein. C'est vraiment pour ça, c'est pas un auteur, mais c'est un metteur en scène, un peu comme des gens comme... moi, je pense à Otto Preminger ou Richard Fletcher. Vraiment, ce sont des purs metteurs en scène. Il suffit pour cela hein, d'admirer le plan séquence d'ouverture, hein, qui fait à peu près une minute trente, hein, qui nous plonge donc au cœur du combat avec une très grande virtuosité. La caméra, elle mobile, elle dessine un espace topographique d'une grande lisibilité. D'ailleurs, dès qu'il en a l'occasion, le réalisateur joue sur la durée des plans. Hein. Ça n'entraîne pas une baisse de rythme, mais vraiment une intensité narrative. Donc le film fait à peine 1h20, je crois, hein, 77, 78 minutes, quelque chose comme ça. Hein. Et vraiment, le cinéaste prouve ses capacités d'adaptation pour une œuvre de commande hein, qui pourrait être d'un intérêt relatif sur le papier, mais qui est vraiment un film super divertissant. Quoi. Alors, je ne sais pas si c'est vrai sur la jaquette, alors peut-être que toi, Jérôme, tu pourras me le dire, hein, sur la jaquette du DVD du film qui est édité donc chez Elephant, il est marqué que le film aurait inspiré Indiana Jones, qui s'appelle David Jones, mais j'ai trouvé nulle trace en cherchant sur le net. Je ne sais pas si tu es au courant.
Écoute, après... On peut effectivement parce que je crois que c'est Edith Head qui était costumière sur le film qui a effectivement qui l'habille d'un chapeau, d'un blouson, d'un pantalon qui ressemble beaucoup effectivement au Indiana Jones de Spielberg. Après, je n'ai jamais lu de propos de Spielberg qui a testé de cette influence. Voilà.
Et puis le personnage n'a rien à voir, donc c'est plutôt ça. Alors oui, il a le chapeau, il a le blouson, il a un look qui est proche. Mais est-ce que ce look-là n'est pas finalement récurrent dans plein de films des années 40, dès qu'il s'agit de films d'aventure enfin...
Alors je n'ai pas vraiment de toute façon la réponse à ta question, si ce n'est je te dis le look du personnage. Mmh. Voilà. Pour le reste, intellectuellement, le personnage il est à son lieu de celui campé par Harrison Ford chez Spielberg. Quoi. Voilà.
Ben voilà, et bon, sinon j'aimerais aussi conseiller, alors ce serait bien si un jour on sortait un autre Pharaon que je trouve absolument incroyable. C'est Les Pillards de Mexico. Je ne sais pas si tu l'as vu.
Non, je n'ai pas vu.
Avec Glenn Ford. C'est un film d'aventure. D'ailleurs, qui ressemblerait plus à Indiana Jones, pour le coup. Hein. Là, puisqu'il s'agit d'aller chercher une statuette ou d'un trésor ou quelque chose comme ça. Et il y a des plans séquences qui sont absolument incroyables. Incroyables. Où la caméra, elle suit, plutôt que de faire des champs contre champs, de faire des déplacements de personnages, la caméra, elle suit les personnages et tu as toujours un fil conducteur qui te fait rejoindre un autre personnage. Et je trouve qu'en 40, je sais pas, au début 50, je crois que ce film a été réalisé, il y a vraiment une très très grande virtuosité technique. On l'a aussi dans La Grande Horloge, de toute façon. Hein.
Bah écoute, j'aime beaucoup Glenn Ford. Alors effectivement, ça nous donne envie de voir ce film. On va lancer un appel à nos amis d'Elephant Film pour voir s'ils ont envie de l'éditer. Voilà, et ça pourrait être effectivement une très belle découverte encore.
Super film d'aventure qui est filmé comme un film noir. C'est un mélange des deux en fait. Ça part comme un film d'aventure assez classique et il y a vraiment l'intensité d'un film noir avec une femme fatale, le méchant, enfin, voilà.
Avec tout ce qu'on aime dans le film noir. Écoutez Culture Prune. On va rester avec John Farrow, on est en 1946, on est en Inde, ou peut-être en studio, ça je sais pas trop. Voilà, ça se passe à Calcutta, et donc ça s'appelle Meurtre à Calcutta, mon cher Damien.
Meurtre à Calcutta, meurtre au pluriel. L'histoire, c'est celle de Neil Gordon Pedro Black et Bill Cunningham qui possèdent un avion qui fait des vols commerciaux entre Chongqing en Chine et Calcutta en Inde. Un jour, Bill est assassiné. Ses deux amis décident de mener l'enquête et à cette occasion, Neil rencontre la fiancée de Bill, Virginia Moore, dont il s'éprend. Mais bien vite, les pilotes découvrent que leur appareil sert de moyen de transport pour un trafic de diamants que Virginia elle-même est la complice des contrebandiers. Le casting se compose pour Neil Gordon de Alan Ladd et pour Virginia Moore de Gay Russell. Oui, je fais quelque chose de raccourci, même si Jérôme montre à quel point il aime ses acteurs. Alors, c'est un film en noir et blanc, clairement porté par ses acteurs, l'action se passant dans une contrée orientale qui aurait pu en faire un film d'aventure, mais nous avons bien affaire ici à ce qui se rapproche d'un trailer, un film à suspense, où un personnage est mort et son ami essaye de savoir pourquoi. J'ajouterais que les effets spéciaux sont... Il n'y en a pas vraiment, si ce n'est l'avion, que je trouve vraiment cool. J'ignore si c'est une maquette ou c'est du montage, mais ça fonctionne vraiment. Pour la petite anecdote, il y a une tentative de meurtre par strangulation, ce qui m'a fait penser aux thugs. Vous les connaissez sans doute pour leur apparition dans Indiana Jones et le Temple maudit de Steven Spielberg, ou éventuellement dans le même style que notre film avec les étrangleurs de Bombay de Terence Fisher. Alors, les thugs sont des adorateurs de Kali, la déesse hindoue de la perversion, de la transformation et de la destruction, et leur assassinat se permet de protéger, selon eux, le monde, et ils ne tuent que par strangulation. Ils se font passer pour des voyageurs de confiance, ils aident d'autres voyageurs plus aisés, puis ils les tuent par strangulation et récupèrent leurs biens. Pour revenir au film, je trouve qu'il dépeint de façon intéressante les relations entre plusieurs pays dans une même ville, entre le héros américain, la police britannique, les domestiques chinois et la population indienne. Au final, on a un film noir en territoire hostile, ce qui devrait piquer votre curiosité.
Alors Damien fait référence à, l'amour que je porte aux acteurs. J'aime beaucoup Gail Russell. Voilà, je trouve que c'est l'incarnation de la femme fatale au cinéma. Il y a aussi Alan Ladd dans le film, il y a aussi June Dupré qui fait une autre femme fatale dans le film. Mais pour moi, Gail Russell, c'est la femme fatale du film noir classique. Voilà. Tu parlais des thugs à l'instant. Alors, les thugs qui sont au centre des étrangleurs de Bombay, ce film de Terence Fisher, complètement sadique, voire même sadien, puisque Marie Devereux qui joue dans le film avec sa poitrine énorme qui se secoue de spasmes à chaque fois, parce qu'elle est muette, hein, il se secoue de spasmes à chaque fois qu'elle voit les thugs torturer un occidental dans le film de Terence Fisher. Film aussi... plutôt anticolonialiste qui se moque un peu du comportement des blancs en Inde. Mais ce film de Terence Fisher, c'est un excellent film, hein, et puis il va connaître un peu une sorte de, je dirais pas de remake parce que les films sont un peu différents, mais il va connaître en tout cas ce film de Terence Fisher qui illustre la traque des thugs, hein, la traque de ces étrangleurs de Bombay. Il va connaître un succès d'année avec les Imposteur de Nicolas Meyer en 1988 qui sort chez Rimini avec un tout jeune Pierce Brosnan, mon cher Thomas, et un film de Nicolas Meyer. Je crois que c'est un metteur en scène que tu aimes bien.
Oui, Nicolas Meyer, forcément, je vois Nicolas Meyer sur un Blu-ray. Je me dis, tiens, mais quel est donc ce film de Nicolas Meyer que je ne connais pas? Le réalisateur de C'était Demain, hein, Time After Time, hein, qui a marqué de nombreux cinéphiles, hein, ce duel à mort entre Herbert George Wells et Jack l'Éventreur dans le San Francisco du XXe siècle. Donc Nicolas Meyer, je prends ce film, un film inédit en salle en France, Les Imposteurs. Je me demande encore pourquoi après avoir vu le film, et qui n'est sorti qu'en DVD en 2004. Et donc c'est l'occasion de découvrir ce film presque inédit de Nicolas Meyer, qui est un excellent film d'aventure, dans lequel Pierce Brosnan incarne un officier de l'armée britannique qui donc sévit en Inde, et il est muté dans une obscure région de l'Inde, et là-bas il va découvrir cette société secrète des thugs. Et il va les combattre en les infiltrant. Déjà, Pierce Brosnan, James Bond avant James Bond, quoi. Donc, il va les infiltrer. Et là, on va avoir droit à un grand film d'aventure. Hein, un grand film d'aventure. Entre le film d'aventure et le film d'espionnage, en fait. Hein, c'est un peu tout ça qui va nous emmener dans les recoins les plus obscurs de l'Inde avec ces thugs, qui étaient une secte quand même assez très répandue, qui a sévi pendant plusieurs siècles, et comme tu l'as dit, qui s'attaquait aux voyageurs aisés, mais qui ne tuait pas les femmes, les enfants, les lépreux, les malades, les pauvres, etc. Et donc, en fait, je disais, c'est un grand film d'aventure. Et c'est du cinoche aussi. Il n'y a rien que la scène d'ouverture, le prologue. C'est que de la mise en scène. Il n'y a pas une parole. Il n'y a rien. Et c'est que de la mise en scène. On comprend ce qui se passe. Déjà, il pose les bases de son film. On voit qu'il y a des meurtres étranges qui se déroulent en Inde. Et donc, il y a ce petit côté un peu aussi anticolonialiste, évidemment, hein, parce qu'ils sont un peu... Il est un peu arrogant, ce personnage interprété par Pierce Brosnan. C'est pas le pire, mais il est quand même un peu arrogant, il regarde un peu les Indiens de haut. Hein.
Il est un peu arrogant, et puis, comme il a pris l'identité, en fait, d'un homme... Ça démarre un peu avec sa femme, en fait. C'est-à-dire qu'il prend... Sa femme voit une jeune épouse indienne qui veut se suicider puisque son mari Gopal n'est pas réapparu depuis fort longtemps. Et lui, il se déguise en Gopal qu'elle voit de loin, comme ça, pour l'empêcher de se suicider, et aussi pour faire plaisir à sa femme, à Pierce Brosnan. Voilà. Et le truc, c'est qu'il apprend l'existence de cette secte d'adorateurs de Kali, hein, vous savez, cette déesse avec plusieurs bras, là, comme ça. Il se dit, je vais continuer à être Gopal, je vais aller les infiltrer. Voilà, c'est tout ça avec un délateur, parce que la question de l'imposture et des imposteurs revient souvent, et de la délation revient souvent dans le film. Et c'est comme tu le dis, il n'est pas que arrogant, il fait aussi des choses assez peu recommandable. À un moment, il va croiser le vrai Gopal. À un moment, il va tromper sa femme. Enfin, il est pas très sympathique. D'ailleurs, le film a eu quelques difficultés à se monter parce que c'était pas. On est à la fin des années 80. On n'a peut-être pas envie de raviver cette histoire, l'histoire colonialiste comme ça de la Grande-Bretagne. On veut mettre un peu ça de côté. Donc, le film va mettre longtemps à se monter, à trouver un metteur en scène et tout. Et effectivement, le personnage de Pierce Brosnan, il est très ambigu quand même.
Le peu que je connais des films de Nicolas Meyer, il n'en a pas fait beaucoup, il en a fait 9. Hein. Il a réalisé 9 films, donc deux des meilleurs Star Trek, Star Trek 2, La Colère de Khan, et Star Trek 6, Terre Inconnue. Et donc c'était Demain. Et un téléfilm le jour d'après sur une sorte de film de propagande sur la guerre nucléaire entre les Russes et. Enfin, sur la guerre froide. Par rapport à C'était Demain, qui est quand même un film plutôt lumineux, je veux dire. Le héros, il est positif, c'est Herbert George Wells, c'est un écrivain célèbre qui a écrit qui est très progressiste, hein, qui est de gauche. Là, le personnage, il est quand même très à part. Effectivement, c'est un film qui est quand même assez sombre, quelque part, parce que au début, il n'est qu'arrogant, le personnage. Il est qu'arrogant, mais en infiltrant les thugs, en fait, il devient comme eux. Et c'est en mâchant un sucre qui fait que maintenant il appartient à Kali, que Kali lui appartient. Et là, il dérape complètement. Et puis, il va devenir un assassin aussi, quoi. Par la force des choses. Mais quand même, à un moment, vers la fin, il fait un truc. Il s'en empêche à la dernière minute, mais oui. C'est limite. Hein.
Oui, c'est,
donc,
c'est...
pour du Nicolas Meyer, c'est quand même assez sombre. Enfin, le jour d'après, c'est quand même bien glauque aussi. Mais pour du Nicolas Meyer, quand on regarde ces deux Star Trek où c'était Demain, c'est quand même un film assez sombre. Et franchement, pour moi, c'est une bonne surprise. Je ne connaissais pas du tout et je ne comprends pas pourquoi ce film n'est pas sorti en salle en France, alors que c'est un vrai film d'aventure où il y a plein d'action, il y a du suspense. Et c'est du cinéma, quoi. Il y a de la mise en scène.
Et j'ajoute que la copie est très belle. La copie qu'a édité Rimini et j'ajoute aussi qu'il y a un personnage d'enfant dans cette communauté thug qui est un personnage vraiment très intéressant, qui est un étrange personnage qui a un côté aussi presque androgyne. Complètement. Il y a une scène terrible où on le fait danser, on sait pas s'il y a de la perversion là-dedans, on sait pas, enfin c'est devant une sorte de maharaja là, voilà, ouais. De chef de clan, voilà. C'est.
Il danse comme une femme en fait. Hein. C'est très perturbant. Pour Nicolas Meyer, c'est vraiment très sombre, je trouve. Hein.
Non, mais c'est.
Je n'ai pas vu tous ses films, ceci dit. J'ai pas vu Company Business, mais je trouve que par rapport à ce que je connais de lui, c'est vraiment très sombre. Et c'est vrai, cette séquence, elle est perturbante.
En tout cas, on vous le conseille vivement. Et c'était pour faire un peu suite à ce que tu disais. Du coup, tu nous as offert une transition, mon cher Damien, lorsque tu nous as parlé de Meurtre à Calcutta. We'll be right back.
écoutez Culture Prohibée spéciale classique. On va retourner chez Éléphant de Film, Thomas, puisque tu étais... Là, je t'ai senti chaud comme la braise hein, pour parler du film de Nicolas Meyer, Les Imposteurs, donc film de 1988 qui vient de sortir chez Rimini. On va retourner chez Éléphant de Film pour parler d'un autre metteur en scène que tu aimes beaucoup, c'est Anthony Mann. Et en l'occurrence, là, pour parler d'un film avec James Stewart, compagnon du cinéma d'Anthony Mann. Il a joué dans beaucoup de films d'Anthony Mann, mais cette fois-ci, pas dans un western. Un film qui s'appelle Le Port des Passions, Thunder Bay, un film de 1953, et qui se passe en 1946, mon cher Thomas.
Oui, Le Port des Passions, contrairement à ce titre français, hein, qui est un peu stupide, ce n'est ni une comédie romantique, ni un mélodrame. Hein. C'est un film d'homme. C'est pas un film très Sandrine Rousseau compatible. Parce que c'est aussi un film où James Stewart et Dan Duryea débarquent dans un petit port où ils ont investi leur dernier dollar pour construire une plateforme pétrolière au large de ce port de pêche où les gens pêchent la crevette au large. Et donc, forcément, ils ne vont pas se faire des copains. Et donc, c'est pour ça que je disais que ce n'était pas très Sandrine Rousseau compatible. Et donc, ces deux aventuriers vont construire une plateforme pétrolière au large. Et évidemment, à partir de là, va se passer des choses. Ils vont rencontrer des femmes, dont John Drew, hein, dans un personnage de femme qu'on dirait tout droit sorti d'un film de War Dogs, hein, quelque part.
D'ailleurs, elle était dans La Rivière Rouge.
Oui, d'ailleurs, elle était dans La Rivière Rouge. C'est pour ça que je dis ça aussi. Hein. Et donc, c'est un film d'aventure. Bon, c'est pas le meilleur Anthony Mann. Je crois que c'est la cinquième ou sixième collaboration entre Anthony Mann et James Stewart. Et c'est pas le meilleur Anthony Mann, mais on retrouve cette flamboyance, cette façon qu'il a de filmer, notamment des corps réels, les différentes aventures de ces personnages. Alors bien sûr, il y a la tempête, il y a les bagarres à main nue entre les personnages, il y a tout un tas de trucs qui peuvent quelque part rappeler le western, mais ce n'est pas un western. Voilà, pour moi, c'est un Anthony Mann, je vais pas dire mineur, je vais pas exagérer, mais c'est pas le meilleur Anthony Mann que j'ai pu voir, quoi.
C'est tout de même assez bavard, je trouve. Voilà. Et puis le film a. Ça, c'est pas de la faute d'Anthony Mann, mais tu disais tout à l'heure, c'est pas très Sandrine Rousseau compatible, effectivement, parce que c'est pas les petits pêcheurs de crevettes qui gagnent, c'est le gros, enfin, quelque part, c'est le gros industriel, le gentil dans l'histoire, donc c'est vrai que c'est pas. C'est un discours qui fait très daté, en fait, quoi, voilà.
Oui, enfin, c'est un discours très, très américain, c'est l'homme qui se fait tout seul, quoi. Mmh. Parce que ce personnage de James Stewart, c'est un ingénieur au départ, hein, qui a essayé de faire plusieurs choses, et donc. Finalement, c'est l'homme qui se fait tout seul, même s'il trouve un mécène pour pouvoir l'aider dans son projet. Mais on retombe dans cette mythologie américaine de l'homme qui se fait tout seul. Et là, c'est l'homme qui bâtit une plateforme pétrolière et puis qui finit par trouver du pétrole. Évidemment, on se doute bien que ça va bien se finir. Et puis qu'ils vont devenir copains avec les pêcheurs de crevettes parce qu'il va y avoir une petite pirouette qui est complètement invraisemblable. Mais bon, c'est un Anthony Mann. C'est pas le meilleur, quoi.
En tout cas, il faut le voir parce que c'est un film d'Anthony Mann. Donc voilà. Mais comme tu le dis, c'est un Anthony Mann en mineur. C'est peut-être méchant, mais en tout cas, c'est pas parce qu'il avait fait des films plus mineurs, Anthony Mann. Mais c'est pas son grand film oublié qu'on redécouvrirait. Voilà, c'est un petit film d'aventure qui se regarde. Voilà.
Qui n'est pas honteux.
Tout à fait.
vous écoutez Culture Prohibée.
Rimini nous a sorti un film, je ne l'avais jamais vu. Le film n'a effectivement pas une réputation extraordinaire. Tout le monde dit, l'avant-dernier film d'Otto Preminger, bon, il vaut mieux voir son dernier film qui est meilleur que celui-là. Et son avant-dernier film, qui est fait avec la France, quand même, il y a une sorte de coproduction avec la France, j'étais quand même curieux de voir ça. On y retrouve par exemple Georges Belair en professeur gauchiste. Hein. Une distribution quand même assez étonnante, puisqu'on est en... On est en 75, on retrouve Isabelle Huppert, Kim Cattrall, qui sont toutes jeunes, vraiment toutes jeunes. Kim Cattrall, on la reconnaît à peine. Elle est tellement jeune. Isabelle Huppert, on la reconnaît déjà, on repère son minois, puisqu'elle a déjà tourné hein, quand même là, à cette époque-là, donc on voit un peu à quoi elle ressemble. Mais Kim Cattrall, je ne l'ai pas reconnue tout de suite, c'est parce que je savais qu'elle était dans la distribution. Il y a Claude Dauphin qui fait un capitaliste, hein, un grand capitaliste. Et bon... Il se murmure que Otto Preminger avait laissé son fils faire le scénario, enfin travailler sur le scénario, et qu'il l'a congédié et qu'il l'a pas repris pour son film suivant. Puis après, Otto Preminger, malheureusement, cet immense cinéaste est décédé. Et puis son fils n'a plus jamais fait de scénario pour le cinéma. Donc il y a peut-être une raison, je pense qu'il y a un lien de cause à effet. Alors qu'est-ce que ça raconte Rosebud ? Alors Rosebud, c'est simple, ça se situe dans la continuité des exactions du commando Septembre Noir, dont on a il y a peu fêté le funeste anniversaire qui avait enlevé des athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich, et que ça s'était terminé quand même en massacre. Là, le commando Septembre Noir a une idée de génie. C'est-à-dire que sur un yacht se réunissent plusieurs jeunes femmes, hein, donc cinq jeunes femmes, qui sont, à une exception près, toutes des filles de la haute bourgeoisie. Évidemment, le yacht appartient au grand-père, le fameux Charles-André Fargeau, le milliardaire, le grand capitaine d'industrie, et les membres de Septembre Noir, alors Charles-André Fargeau qui est juif, évidemment. Hein, ça. Et donc, le commando donc palestinien, hein, voilà, qui décide d'enlever ces jeunes filles, et puis, alors, étrangement, de les enlever, de les mettre toutes nues. On ne sait pas pourquoi. Je les mets toutes nues. Voilà, c'est comme ça. Ça dure le temps d'une scène, mais je ne sais pas pourquoi. Comme ils sont fourbes, ils tuent tout le monde pendant que les gens dorment, parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'ils soient amenés à se battre. Et puis derrière, ils emmènent ces filles toutes à poil. Voilà, c'est comme ça. Et puis, ils leur font lire des lettres. Et à chaque fois, on exige grand responsable, en particulier là, Charles-André Fargeau, fasse son mea culpa et qu'en gros, il s'excuse d'être juif et puis qu'il explique que c'est la faute des juifs tous les malheurs sur Terre. C'est très, très caricatural. Vous allez comprendre. C'est pour ça que le film m'ennuie beaucoup et m'embête de la part d'un cinéaste aussi subtil que Preminger, quand même. Tous ces gens-là sont désemparés, donc ils vont chercher Peter O'Toole. À la base, c'était Robert Mitchum, hein, qui est un proche de la CIA. À la base, c'était Robert Mitchum, donc qui devait incarner une sorte de margoulin qui est chargé de récupérer ses filles, un alcoolique. Voilà. Ce qui était pour Robert Mitchum un rôle plutôt dans ses cordes. Et malheureusement, ça se passe pas bien avec Preminger, visiblement. Et il prend Peter O'Toole. C'est aussi vraiment dans ses cordes, hein, d'ailleurs, Peter O'Toole. D'ailleurs, il est excellent, hein, Peter O'Toole. Et il décide d'aller traquer ces terroristes qui sont dirigés en sous-main par Edward Slott. Alors, Edward Slott qui est quand même campé par Richard Attenborough. Alors, il faut voir Richard Attenborough habillé en Mujahideen et vivre dans une grotte. Voilà, bien sûr, voilà. Il faut le voir quand même pour y croire, parce que c'est bien connu, les terroristes arabes vivent dans des grottes. Ça, voilà.
Ben Laden vivait dans une grotte. Hein.
Oui, mais il était traqué quand même. Mais bon, voilà. Enfin bref, donc c'est...
Non, c'est pas d'excuse.
Alors évidemment, au début, bon, tout le monde a tendance un peu à s'en prendre au fameux Patrice Thibault, campé par Georges Belair, qui est un professeur marxiste, donc, hein, donc qui veut se faire frapper par les flics, pour dire, voilà, bon... Et puis, Peter O'Toole, qui ressemble énormément à Georges Belair, décide de se faire passer pour Georges Belair. Ouais, bon, ne cherchez pas à comprendre. Pour aller à la rencontre des terroristes. Et puis, finalement, Entre-temps, il y a Isabelle Huppert qui a été délivrée, parce que chaque fois qu'ils lisent une lettre à la télé, il y a une fille qui est délivrée quand même. Hein. Et tout ce petit monde-là est retenu prisonnier en Corse. Voilà. Par ces terroristes qui sont des terroristes vraiment très très méchants, dont un est particulièrement pervers parce qu'il s'est fabriqué une arme personnelle et il en bave à chaque fois qu'il doit tuer quelqu'un avec cette aiguille de manière très cruelle. Voilà. Le terroriste palestinien est cruel. Hein. Voilà. Donc, à côté de ça, heureusement, il y a l'aide de l'État d'Israël qui est extraordinaire. La CIA plus l'État d'Israël qui empêche que tout ça se termine très mal. Heureusement qu'ils sont là. Et ils arrivent même à piéger le fameux Edward Slott dans une scène quand même qui est assez ridicule, où Richard Attenborough se fait gauler parce qu'on l'enregistre à son insu. Enfin, c'est assez ridicule. Le mec, il est grand. Il dirige une des plus grandes organisations terroristes au monde et il se fait avoir comme un enfant de 6 ans. Quoi, voilà. Mais la scène quand même qui trahit le plus l'aspect très gênant idéologiquement du film, c'est quand même la scène où le commando anglo-saxon israélien va récupérer va kidnapper le grand chef, hein, donc qui est donc Richard Attenborough, parce qu'en fait ils attendent que les terroristes présents dans la grotte se tournent vers la Mecque au moment de la prière. Et du coup, comme les types qui sont demeurant armés jusqu'aux dents sont en train de faire leur prière, ils sont tellement obnubilés par leur prière qu'il y a tout un commando qui a le temps de rentrer dans la grotte, de passer derrière les mecs qui sont là tranquilles en train de faire la prière le long du mur, de récupérer leur chef et de le sortir de là, tout ça sans une seule balle tirée, puisque les types sont en train de faire leur prière, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment, enfin, c'est très méprisant, quoi. Voilà, c'est très condescendant, c'est très, c'est un peu honteux, quoi. Voilà, il faut dire des choses. C'est voilà. Oui, Thomas.
Des mecs tournés vers la Mecque,
voilà. Mais c'est un film qui a déclenché, quand même une, parce que tout est caricatural. Enfin, même Isabelle Huppert, c'est une Française, donc c'est une nymphomane. Elle veut à tout prix coucher avec le héros. Elle fait tout pour qu'il couche avec elle. Voilà. Enfin, tout est tellement caricatural, c'est pas possible. C'est pas possible qu'Otto Preminger puisse tourner ce film. Il faut le voir, par contre, ce film, parce que ça, c'est une vraie curiosité. C'est un film malade, hein. c'est un film loupé de Preminger. Par contre, je pense que c'est son seul mauvais film. En tout cas, j'en ai vu beaucoup. Donc, ça vaut le coup de le voir. Et ça a déclenché comme une telle polémique, ce film, qu'il y a Ignacio Ramonet, qui a été directeur du Monde diplomatique de 90 à 2008, bon, qui n'est pas vraiment un mec de droite, hein. Bon, voilà. Donc, il va peut-être donc un peu exagérer le trait, mais enfin, il avait répertorié dans un article du Monde diplomatique tous les clichés du film Rosebud. Alors, la cruauté, la fourberie, la lâcheté, qui sont les traits de caractère de tous les personnages arabes du film, en fait. Hein. La lascivité, oui, parce qu'il déshabille les filles sans raison. Le fanatisme, hein. D'ailleurs, c'est vrai qu'à un moment, il y a un mec qui, comme il était en commando suicide et qu'il n'est pas mort pendant son opération, quand il rentre, il se tire une balle. Il dit, voilà, j'étais en commando suicide pour mener ma mission jusqu'au bout, boum, bam, je me tue. Voilà, bon. La servilité, le féodalisme, hein. Puisque le quartier général de Septembre Noir est situé, je vous ai dit, au Liban, dans une grotte. Alors, c'est vraiment un film pas vraiment défendable, quoi. Voilà. D'un point de vue mise en scène, par contre, intéressons-nous à la mise en scène. Le premier quart d'heure est vraiment parfait. C'est tout le début où on voit les terroristes arriver en Corse et tout. C'est que de la mise en scène, il n'y a quasiment pas de dialogue. Tout passe par la maîtrise de la mise en scène d'Otto Preminger. Et évidemment, Preminger, c'est pas un manchot quand il s'agit de manier une caméra. Mais après, j'ai envie de dire, Preminger ne peut rien faire par rapport à son script. Ça, au bout d'un moment, là, le script est trop chargé, trop mauvais, en fait. Hein. Et donc, Preminger arrive à sauver les meubles quand même, grâce à la performance de Peter O'Toole, qui est une sorte de super James Bond dandy alcoolo anglais, qui a pas du tout le physique de l'emploi et qui est parfait, excellent, voilà, dans son rôle. Et ça permet de se raccrocher parce que c'est quand même riche en péripéties, il se passe plein de choses. Hein, c'est un film assez rythmé, mais il faut passer outre. Et c'est très dur. Il faut passer outre quand même tous ces clichés. Comme le dit Ignacio Ramonet dans son article, là je suis assez d'accord avec lui, la défense d'une cause aussi juste soit-elle ne justifie quand même pas tout.
Bref, c'est un film qui rend maussade.
Prohibé spécial classique. On va continuer de voyager, le Liban, la Corse, l'Inde, voilà, dans cette émission. On va aller au Japon et on va aborder deux films sortis chez Carlotta, deux films très différents. Tout d'abord, Conte cruel du Bushido, qui est un film de Tadashi Imai, qui est ce qu'on appelle un Shambara. Il y a de nombreuses années, on avait fait une émission sur le Shambara, qui a longtemps d'ailleurs été l'émission la plus téléchargée de toute l'histoire de Culture Prohibée, avant d'être détrônée par les deux émissions spéciales 10 ans de l'émission. Voilà. Donc maintenant, il faudra attendre encore 6 ans pour la spéciale 20 ans, peut-être encore pour battre des records. Bon, donc le Shambara, film, je fais très vite, film de sabre japonais, voilà. Oui, c'est réducteur, c'est, voilà, on peut, mais en tout cas, vu comme ça, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Là, c'est un film de 63 qui dure 2 heures, qui est un Shambara assez atypique, qui raconte l'histoire d'un homme qui est plongé dans le malheur après la tentative de suicide de sa fiancée, et il se met à remémorer. Alors, cet homme est contemporain de l'année de réalisation du film, ça se passe dans les années 60, et cet homme se remémore depuis le XVIIe siècle toutes les atrocités endurées par ses ancêtres. Il fait un lien entre tout ça qui le mène là jusqu'à cette tentative de suicide qu'il vit dans son quotidien. Il se rend compte que toutes ces atrocités, tout ce qu'a enduré sa famille au fil des siècles, c'est dû au nom du code d'honneur du Bushido. Alors, Tadashi Imai, lui, c'est un cinéaste japonais qu'on a quand même vraiment oublié. Et pourtant, il a en remporté l'Ours d'argent en 58, l'Ours d'or en 63. Et pourtant, c'est un cinéaste qui a été souvent mis de côté. Alors, beaucoup aussi parce qu'il était ouvertement communiste.
Donc, il a été pas mal rejeté, y compris par la critique américaine. Enfin, il a été mis de côté, il a été un peu oublié. Et bah, l'ours d'or de 63, c'est ces contes cruels du Bushido, justement, et qui est un film qui est vraiment particulier parce que, alors, pour moi, ce n'est pas un chef-d'œuvre. C'est un excellent Chambara, mais ce n'est pas un chef-d'œuvre. En particulier, pourquoi ? De par le choix de son sujet. Parce que c'est un film qui s'inscrit dans la continuité d'un grand classique du cinéma japonais, le film de Kobayashi, Harakiri. Harakiri qui est porté par le très puissant Tatsuya Nakudai, qui est vraiment un film exceptionnel sur un sujet très proche, enfin, sur le même sujet d'ailleurs, hein, sauf que là, ça, c'est sur un lieu, une époque unique, voilà. On a toujours cette même critique que ce fameux code d'honneur, ce Bushido, ce code sacré, est en fait une malédiction hein, qui est vraiment un code de conduite complètement arriéré, qu'en plus souvent les premiers à le revendiquer, qui sont souvent les maîtres, hein, pas ceux qui en souffrent, hein, les premiers à revendiquer ça sont souvent les shoguns qui veulent instaurer en fait un régime de terreur. Et le film a pour but de démontrer l'ineptie du seppuku en fait. Hein, les différentes histoires en fait démontrent que derrière ces notions d'honneur, le Japon est un pays qui s'est construit quand même dans le chaos et la violence. C'est assez impressionnant. Et que les sept vertus de Confucius revendiquées par justement les tenants du Bushido en fait ne sont pas respectées par les premiers à les défendre. On voit par exemple dans le film un shogun qui emprisonne des suspects et qui les humilie en place publique en les enterrant, en ne laissant que leur tête dépasser pour être décapité à la scie. C'est absolument pas dans les préceptes de Confucius, ça, voilà, entre autres. Et puis on voit surtout une sorte de soumission, en fait, c'est une sorte de soumission que subissent les samouraïs, en fait, hein, et qui est une vraie souffrance pour eux et qui est vraiment quelque chose qui se répercute y compris donc dans la société japonaise des années 60. Et ce qui est très intelligent de la part de Tadashi Imai, qui quand même c'est un film très ambitieux parce que c'est un film construit en flashback, donc quand même avoir une bonne maîtrise de l'outil cinématographique. Et ce qui est très intelligent, ce qui est très intelligent, très fort. Évidemment, il est communiste, vous allez me dire, c'est caricatural. Ça dépend de comment vous vous placez, mais c'est de faire dire que c'est le shogun d'hier, en fait, que ceux qui tenaient la féodalité, qui érigeaient la féodalité en mode de soumission pour diriger la société, aujourd'hui sont devenus des dirigeants de multinationales. Voilà. Et l'idée, c'est ça. Et donc, le poids des structures sociales est toujours aussi important au Japon. D'ailleurs, c'est un des pays où les salariés, toujours à l'heure d'aujourd'hui, là, c'est un film des années 60, mais où les salariés aujourd'hui refusent de prendre des vacances. Comme c'est un vrai problème, on le sait, au Japon, on est obligé de forcer les salariés à prendre des vacances parce qu'ils refusent de s'absenter du travail, parce qu'on est toujours soumis à ce soi-disant ce code d'honneur de la loyauté. Que autrefois donc avec les samouraïs, aujourd'hui dans les entreprises, et en fait, ce qui motive la tentative de suicide de sa compagne, c'est que le patron de celle-ci fait pression pour annuler le mariage, puisqu'elle va se marier avec un homme qui travaille dans une autre entreprise concurrente, dans le même secteur. Voilà. Donc c'est ce qui motive la tentative de suicide de cette jeune femme. Donc c'est vrai que, et puis c'est pareil, la question aussi de l'homosexualité chez les samouraïs qui est abordée de manière un peu détournée, ça c'est assez rare quand même dans le Chambara, mais cette question qui pose une question importante, c'est jusqu'où l'être humain peut aller en termes de dévotion. Jusqu'où il peut aller, jusqu'où il peut le supporter, et quand est-ce que ça devient une aliénation totale, voilà, de vivre dans une société. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Donc c'est, vous avez compris, c'est un film très intéressant. Après, le film est un peu austère dans dans sa forme. Il a des moments assez impressionnants, assez amples, c'est un film assez austère, c'est un film assez désespérant quand même. Ne vous attendez pas à pouffer de rire devant le film. Hein. C'est un film assez noir sur ce qu'est l'humanité. Et c'est un très bon film, donc édité par Carlotta Film. Conte cruel du Bushido, et c'est de Tadashi Imai. Alors, beaucoup plus léger, quoique, mais quand même, c'est Les mouchoirs jaunes du bonheur de Yoji Yamada, qui est un véritable film culte au Japon. Moi, j'avoue, je ne connaissais pas. J'ai découvert là avec... autant je voulais voir le film de Tadashi Imai depuis longtemps, autant ça, je ne connaissais pas. C'est un film beaucoup plus récent, on est en 77, hein, et c'est un road movie. C'est un road movie, c'est une sorte de feel-good movie, en fait. Hein, le scénario est assez vague, en fait, hein, puisque c'est suite à une rupture amoureuse, Kinya, qui est assez exubérant, décide de fuir la capitale pour partir en voiture à Hokkaido, au nord du Japon. À la gare d'Abashiri, il fait la connaissance de la timide Akemi, qui vient elle aussi d'essuyer une déception sentimentale. Donc, bien sûr, ils sont très différents l'un de l'autre, mais ils vont décider de visiter ensemble la région. Et ils vont rencontrer Ken Takakura, la star un peu du film, enfin l'acteur qui a marqué quand même, hein, Ken Takakura, tous les fans de cinéma japonais. Un certain Yuzaku, qui en fait vient de sortir de prison, mais qui est aussi en fin de compte plutôt un bon gars. Voilà. Et le scénario est assez leste, assez vague. Il y a un petit côté Monty Hellman, en fait. C'est-à-dire qu'on se laisse porter, on suit cette bande déclopée de la vie, comme ça, dans leur traversée... dans leur traversée du Japon. Alors le film est tellement célèbre qu'au Japon, il y a même eu un remake en 2008, hein, donc je ne l'ai pas vu parce que je ne connaissais même pas ce film. Hein. Et le film est signé donc Yoji Yamada, alors c'est un cinéaste de la Shochiku, donc c'est une grosse société de production au Japon, hein. Et lui, il a travaillé dans la série de films, il a créé même le personnage de Tora-san, qui est vraiment ultra, ultra culte au Japon, hein. Je crois qu'on l'a traduit chez nous par « C'est dur d'être un homme ». Et c'est une série de films qui va de 69 à 95 et il dirige quand même 45 des 48 films. C'est dire si le garçon était un stakhanoviste quand même. Voilà. Et puis, évidemment, il a réalisé aussi une trilogie sur le samouraï entre 2002 et 2006 qui lui a valu pléthore de prix internationaux. Mais c'est vraiment les mouchoirs jaunes du bonheur qui est son film culte. Alors si vous aimez les trios improbables qui sillonnent les routes du Japon dans une Mazda rouge, vous allez aimer. C'est un film qui a un petit côté naïf, hein. Je vous avoue sincèrement que c'est un film qui tient je sais pas, qui tient peut-être au jeu des acteurs, qui tient ce petit côté peut-être un tout petit peu naturaliste du film. C'est un film sans rebondissement, c'est assez étrange. Et on a l'impression, en fait, je sais pas si c'est quelqu'un qui est influencé par Godard, mais on a un peu l'impression, on va me faire mentir, on va me dire non, mais c'est pas vrai, le film était très écrit, mais on a presque l'impression que c'était pas écrit, qu'il y avait une trame et qu'on a laissé les acteurs comme ça, improviser, avancer dans cette épopée de la petitesse, mais pas au sens péjoratif du terme, hein. C'est un film plein d'humanité et voilà, je vous le conseille vivement. Alors après tous les films un peu glauques là qu'on vous a conseillé, parce que Les Imposteurs ça rigole pas beaucoup, ni comment dire, même si c'est un film d'aventure, hein, ni surtout Les Contes Cruels du Bushido. Bon là, avec ça, une fois que vous aurez vu ce film, vous aurez la banane. Voilà, donc je vous le conseille vivement. Ça s'appelle Les Mouchoirs Jaunes du Bonheur. C'est un film de Yoji Yamada et c'est sorti chez Carlotta Film. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee.
Une émission animée avec Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne. Un invité spécial aussi, hein, un ami de Prime Cut, Emmanuel Legagne. Et puis Thomas Roland, dit le loup-garou Picard and the last but not the least. Je vais bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.